et les bords, minuit. De l'eau sur Mars.
De l'eau sur Mars, sur et les bords, la nuit à partir de minuit, le secret.
Sur et les bords. I'm gonna lose my mind when I hear your voice. Out of the games you play, ain't got no choice. Slave in the game, playing too tough. Running for love, it's getting rough. Sometimes stupid, sometimes mean. But then I wanna tell you I'm incredibly keen. Keen to tell you I'm just playing the cool. Please, Margarita, kiss the fool.
Loving you. Restaurant dans toute la région. Ce qu'on y mange ne peut être supporté que si l'on n'en sent pas le goût. Les restaurants ne sont pas tenus par des cuisiniers et des restaurateurs. Ils sont créés par quelques-uns qui décrètent que les gens mangent toujours et qu'un restaurant est une bonne affaire. L'établissement aura une façade en verre pour qu'on puisse voir l'intérieur et une décoration chromée. La cuisine est de la mauvaise cuisine américaine. On voit le patron assis dans son restaurant et regardant ses clients avec une expression ahurie et hostile. D'ailleurs, il n'a vraiment pas envie de tenir un restaurant et il ne gagne même pas beaucoup d'argent. Beaucoup de gens ont gagné un argent facile et rapide au cours de la guerre et dans les quelques années qui ont suivi. N'importe quelle affaire était bonne, tout comme n'importe quelle action est bonne dans un marché en hausse. Les gens s'imaginaient qu'ils savaient y faire, alors qu'en réalité, il n'avait fait que bénéficier d'une période faste. Aujourd'hui, la vallée est en perte de vitesse et seuls les gros entrepreneurs tiendront le coup. Les lois économiques y fonctionnent comme une formule algébrique du niveau du lycée, puisqu'il n'y a aucun élément humain pour s'interposer. Les très riches accroissent encore leur fortune, tandis que tous les autres vont à la ruine. les bords.
Thank you.
Montezuma dès la première seconde, entièrement et pour toujours. Pour les ignorants, cela s'appelle l'amour. Ils décidèrent d'aller au cinéma, dont l'entrée était gratuite depuis que les libertaires s'étaient emparés de la ville. Et à peine installés, ils se jetèrent l'un sur l'autre et échangèrent dans le noir un baiser impétueux qui allait durer pas moins d'une heure et demie. C'était le premier baiser de Montse, qui fit ainsi une entrée grandiose sur le terrain des voluptés. Devant l'écran où s'affichaient d'autres baisers, bien plus professionnels sans doute, mais autrement parcimonieux. Et comme rien depuis juillet ne se faisait selon les règles antérieures, et comme la morale s'était mise aux ordres du désir, et comme nul ne s'encombrait plus des anciennes contraintes, et comme tous ou presque les envoyaient valser sans l'ombre d'un remords, mais néanmoins un peu d'inquiétude, Montse, après le baiser d'une heure et demie qui était d'une douceur à mourir, accepta sans aucune hésitation d'accompagner le Français dans sa chambre d'hôtel. Et elle n'eut ni le temps ni l'esprit de se demander si les dessous qu'elle portait étaient de circonstance. Grande culotte en coton parfaitement anaphrodisiaque et chemisette assortie. Qu'il s'effondrait sur le lit, se respirait, se caressait, s'en mêlait passionnément et se faisait l'amour dans une émotion et une impatience qui les faisait trembler. J'abrège. Ils retombèrent sur le côté, haletants, en sueur, se regardèrent comme s'ils se découvraient. Restèrent un moment silencieux, puis Montse demanda au Français à quelle heure il devait partir. Le Français caressa d'une main pensive le contour de son visage et lui dit quelques mots qu'elle ne comprit pas. Il avait une voix tremblée, frissonnante, inolvidable, me dit ma mère. Elle le fit répéter. Il lui redit des mots qu'elle ne comprit pas, ou plutôt qu'elle comprit, mais autrement que par leur sens. Pour les ignorants, cela s'appelle la poésie. À 7h du matin, le Français regarda sa montre. Il sursauta. Le temps était passé si vite. Il était affreusement en retard. Il s'habilla à la hâte, l'embrassa une dernière fois et partit en courant vers ceux qui l'attendaient pour le conduire au front.
Sunset to rise up. Sydney Great. People float the boat, no matter what you say. Make the trip to Cairo, we're headed for the Blue Man Bay. Set to sail away.
Thank you.
Selon le mineur Caillot, son grand-père a téléphoné depuis la pizzeria à Mademoiselle Cabessa à 18h15 pour confirmer leur rendez-vous nocturne. Ayant surpris la conversation par hasard, Claudio B., surnommé Caillot, a décidé de poursuivre l'amant dans un but indéterminé. Le département de toxicologie de Moreno confirme que le mineur était alors sous l'emprise du cannabis, d'une variété dénommée « point rouge » et provenant du Chili. Monsieur Bertotti Americo a quitté son domicile à 21h05, conduisant le cyclomoteur susmentionné. Le mineur l'a suivi à 21h07 sur un deuxième cyclomoteur Vespa immatriculé B37001. Selon les déclarations de la famille, personne n'a alors constaté l'absence du mineur. Le témoin, Monsieur Anselmo E., chauffeur routier, affirme avoir vu sur la route de Lujan un vieux fou qui roulait à fond la caisse sur un scooter, se défaire d'un sac en le jetant dans le fossé pendant qu'il roulait. S'il s'agissait des empanadas qu'il était censé livrer, le témoin a vu également un gamin complètement défoncé s'arrêter, ramasser le sac et prendre en chasse le vieux tout en les mangeant. Monsieur Bertotti Americo et Mademoiselle Cabessa Silvia sont entrés à l'hôtel Las Delicias à Lujan à 21h52, comme le confirme l'employé Ficciotti Rodolfo. Profitant de sa petite taille, le mineur s'est caché derrière une fougère dans le hall et a entendu le numéro de la chambre qu'on attribuait au couple. Après quoi, il aurait fait le tour de l'hôtel et, se frayant un passage dans la clôture de la maison attenante, il aurait emprunté l'escalier de secours et serait entré dans la chambre du couple, interrompant, au dire de Mademoiselle Cabessa Silvia, une fellation. Monsieur Bertotti Americo affirme que le mineur a interrompu un cunnilingus. Un groupe d'homosexuels qui se trouvait dans la chambre voisine confirme qu'il y a eu effraction de la propriété privée et dit avoir entendu la phrase suivante à 23h17 « Mon Dieu, ma femme avec mon meilleur grand-père !»
Thank you. De l'eau sur Mars, sur Hellebore. J'aime le silence des hôpitaux. C'est propre, c'est vide. On entend parfois une toux qui rebondit contre un mur, des papiers qui se froissent, des murmures, des larmes. Tout est blanc. Les gens flottent dans les couloirs et laissent derrière eux un courant d'air qui m'effleure le visage. Marcher est comme un tourbillon délicieux. Le couloir est vide, plein d'échos et je suis aussi vide que lui. Ma peau est la seule chose qui me sépare de l'extérieur. Je suis en lui et il est en moi. Je ne suis rien et il est tout. La limite est si fine, la peau, tout simplement. Elle est si peu, cachée sous maintes couches de tissu et de croûte, trouée de plaies, je n'existe presque plus. Je flotte, je sens que mon cœur peut cesser de battre n'importe quand et ça ne me fait pas peur. Je ne suis ni anxieuse ni impatiente. Je regarde, j'écoute, j'assiste comme on assiste à son propre rêve. La douleur est ma neutralité. Je ne serre plus les dents en sentant les ligaments de mes genoux qui se déchirent. Le froid qui anesthésie mes poignets. Tout est très calme. Je me laisse guider par l'homme aux lunettes. Il est rond et plutôt petit, à peine plus grand que moi. Il perd ses cheveux, ce qui lui reste frise et forme une couronne. Sa laideur n'est pas assez prononcée pour être poétique. Mais la gentillesse du personnage l'empêche d'être caricatural. Il m'explique que le bâtiment est divisé en deux ailes. La droite, dans laquelle on retrouve une dizaine de lits pour les patients qui vont mieux, qui s'apprêtent à rentrer chez eux, on l'appelle l'unité active. Les murs sont blancs, il y a quelques dessins faits par des patients, des photos de jeunes qui sourient. Assis à la table de la cafétéria, il ne sourit pas. Les filles regardent mon visage avec curiosité. Les garçons essayent de deviner mon corps. Et puis les filles regardent mon corps et les garçons mon visage. Au bout de quelques secondes, je comprends. Ils n'arrivent pas à identifier mon sexe. Mon corps est trop plat, mon visage trop creux, mes yeux trop durs. Ils abandonnent, comme ébranlés, et retournent à leurs occupations. Je sens qu'ils sont tous tendus. Que je les trouble, oui, je suis un être mort, dépouillé. Eux sont naïfs, ils se sentent pleins. Et moi, je suis une poche vide qui refuse de se remplir. Extrait du premier roman d'Olivia Tapiero, Les Murs. Thank you. de l'eau sur Mars, sur Hellebore.
Come.